En vue du prix de ce soir, j'ai voulu me remémorer un petit peu avec un certain nombre de philosophes contemporains ou du passé pour pouvoir animer mieux la discussion de ce soir. Que ce soit en ce qui concerne le contemporain Althusser ou Jean-Paul Sartre, parmi les philosophes du passé, Hegel et bien d'autres, en passant par Marx, Engels, Lénine, en tant que militant homme d'action, Staline, Mao Tse-tung, etc. Eh bien, j'ai été encore une fois très frappé par par le langage qu'adoptent les philosophes. J'ai consulté également un certain nombre de thèses de doctorat soutenues dans diverses universités sur le sujet de la dialectique précisément. Effectivement, en ce qui concerne donc les papiers officiels, les thèses de doctorat, je n'ai pu absolument rien tirer. Effectivement, c'est un mauvais style que d'écrire de façon indigeste, de façon incompréhensible, avec un langage difficile, quand même pour les spécialistes, entre guillemets, est très difficile à comprendre. Le vieux Hegel disait, si vous voulez savoir quelqu'un à digérer ce qu'il raconte, ce qu'il vous dit, eh bien, demandez-lui qu'il le raconte avec, en d'autres termes, avec, dans d'autres langages. S'il arrive, cela c'est un bon signe. Évidemment, Hegel était lui-même extrêmement ambigu. On raconte qu'il avait, un de ses élèves un jour lui a demandé, « Maître, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ?» Qu'il avait écrit une phrase dans un article quelques années auparavant. Il a jeté un coup d'œil pour dire, écoutez, à l'époque où je l'ai écrit, nous étions deux à connaître ce que cela signifiait, moi et le bon Dieu. Aujourd'hui, je crois qu'il est le seul. La tendance à rendre le discours, l'exposé d'il, est très fréquent parmi les philosophes. Je me rappelle, j'ai lu un certain nombre d'écrits à propos de ce qu'a à propos de Althusser, table ronde présidée par des gens spécialistes, altruisme, althusserien, etc. Puis, pour conclure, la plupart du temps, ils disent « Oh, nous n'avons pas compris, il aurait mieux fallu qu'il vienne lui-même. » Effectivement, il y a beaucoup de gens, on a envie qu'ils voyagent avec leurs bouquins à travers le monde pour expliquer ce qu'ils voulaient dire. Lénine, de très tôt, s'était révolté contre cette tendance de la philosophie. Et il avait écrit, je crois bien que c'était dans Matérialisme et Empiriocriticisme, les guides du prolétariat international, Marx et Engels, où ils écrivaient de façon intelligible, de façon compréhensible pour tout le monde. Ce qui fait que pour eux, la philosophie, la culture n'était pas une chose destinée à l'élite. Donc, comme finalité, la philosophie n'avait pas l'élitisme. Tout cela pour vous dire que dans un souci de rendre un discours philosophique concernant concernant la dialectique de la nature, le rendre le plus intelligible possible, avant tout pour moi-même, je suis donc obligé de me borner plutôt, de me limiter plutôt ce soir à Marx, Engels, Lénine, Mao Tse-tung, c'est-à-dire des militants qui, en même temps, tout en étant militants, ont écrit à propos de la dialectique de la nature, et en faire la critique avec d'autres, à savoir Jean-Paul Sartre, Monod et Althusser, etc. Cela dit, je vous propose le plan suivant. un bref résumé de ce que nous avons dit l'autre soir, donc la dernière séance, à propos de la dialectique dans l'histoire, la définition de cette dialectique et la conclusion aussi à propos de la dialectique de l'histoire. Ensuite, voir que signifie la dialectique dans la nature et la généralisation qu'en a été faite par Engels notamment, et les critiques et la critique de cette généralisation. Enfin, en troisième lieu, l'état actuel des travaux en ce qui concerne la dialectique de la nature après, à l'époque post-engelsienne, si vous voulez, à travers Marx, Mao Tse-tung, Lénine, Staline, etc. Dans la dernière séance, nous avons parlé du développement historique du concept de la dialectique, de l'Antiquité à nos jours. Notamment, j'ai souligné les trois révolutions qui ont précédé le développement de la dialectique par Marx, à savoir les découvertes scientifiques du XIXe siècle, la révolution hegélienne sur le plan de la pure pensée, et enfin la révolution marxienne. Marx avait pris la dialectique hegélienne, il l'avait renversée, il l'avait mis sur ses pieds. J'avais notamment cité un certain nombre d'exemples de l'application de la dialectique par Marx au domaine de l'histoire, au domaine du pouvoir politique, de l'État, et notamment le capitalisme. En appliquant la dialectique à l'histoire, Marx était arrivé à formuler les concepts, la périodisation de l'histoire et les concepts de mode de production. Il a appliqué ensuite au capitalisme. Au capitalisme, c'est-à-dire à une époque de l'industrie, du développement industriel, où, avec la prédominance de la machine et de l'industrie, tout devient marchandise, y compris les sentiments, les valeurs familiales, la pensée, l'esprit, l'idée, etc. Donc, selon Marx, l'étude du capitalisme devrait commencer avec l'étude de la marchandise. Or, qu'est-ce qu'une marchandise ? C'est un article de consommation qui, avant d'être objet de consommation, il fait objet d'un ou de plusieurs échanges. Mais pour faire objet de l'échange, il faut qu'elle enferme en elle-même deux sortes de valeurs. Une valeur d'usage qui est de l'ordre de la qualité, parce qu'elle s'attache, elle se rattache à la matérialité, à la personnalité matérielle de la marchandise, et par conséquent ne rentre pas dans les catégories économiques. C'est pourquoi Marx ne l'étudie pas. Mais elle renferme aussi la marchandise en question, une autre valeur, c'est la valeur d'échange. La première valeur, c'était la valeur d'usage. Celle-là, la valeur d'échange, est non pas qualitative, mais quantitative. Elle est mesurable en fonction du travail coagulé dans chaque marchandise. C'est la notion bien connue de travail, valeur travail. réalité, lorsqu'on échange, lorsqu'il y a deux échangeurs sur le marché, Marx commence à étudier la marchandise par son histoire, dès le début, dès le point de départ. Au début, lorsqu'on a un échangiste échange une marchandise contre une autre, le A contre le B, 10 mètres de toile contre un habit, il est plus ou moins renseigné sur l'or du travail, sur le travail qu'a coûté la marchandise contre laquelle va changer la sienne. Lorsque vous échangez un costume contre 10 mètres de toile, vous avez donc les deux échangistes, ils sont plus ou moins renseignés sur la valeur de leur objet d'échange, sur la valeur de leur marchandise. Mais en réalité, lorsqu'on échange le A contre B, dans l'absolu, dans la réalité, le A n'est jamais égal de B. C'est par référence à une troisième notion, un troisième concept, qui est la valeur précisément, la valeur travail, que cet échange s'effectue sur le marché primitif. La détermination absolue d'une valeur d'échange est pratiquement impossible, dit Marx. Elle ne peut donc être corrélative. Au début, les deux marchandises sont comparées sur le marché d'après l'expérience qu'a l'acheteur du travail qu'elle nécessite. Par la suite, toutes les marchandises sont comparées à une autre marchandise qui renseigne de toute autre marchandise. C'est l'argent. Avec l'extension du marché du capital, du marché, apparaît l'argent. Il fonctionne comme symbole d'un certain nombre fixe d'or du travail social et reflète la valeur de toute marchandise. Cette valeur acquise au cours de la production s'appelle le prix. Arrivé sur le marché avec l'étiquette qui indique son prix, sa personnalité matérielle, la personnalité matérielle de marchandise, en réalité, disparaît au profit du prix. Le prix ne renseigne plus l'acheteur sur la valeur travail, sur le nombre d'ordres du travail coagulé, enfermé dans chaque marchandise. Et ainsi, une fois échappée aux mains de ses producteurs, la marchandise prend alors une existence fantasmagorique. Elle a une vie nouvelle et personnelle. Les rapports de la bourse enseignent en effet que le coton est en hausse, le cuivre tombe, le maïs s'anime, le charbon se fige, le pétrole accuse une tendance à la hausse. Si bien que la marchandise, dont la personnalité réelle, effective, disparut derrière l'argent, puis derrière le prix, devient une fétiche. Une fétiche, comme si, parce qu'elle est animée sur le marché, dans la société capitaliste d'un esprit personnel, elle conduit les gens. La créature de l'homme lui donne ses ordres. Achète de façon partielle, fractionnée ou plus complète les hommes, les conduit dans les directions qu'elle désire. Elle leur dicte, donc la marchandise, leur dicte sa loi. Il les aliène. Au fond, dans le capital, bien que Marx a abandonné à partir des années 45 le langage philosophique et notamment le terme aliénation, terme qu'il a utilisé très souvent dans les eaux philosophiques jusqu'en 1945. Il l'a abandonné à partir des années 1945, c'est-à-dire à partir du moment où il a pris une où sa recherche a pris une orientation plus proprement scientifique et plutôt économique. Mais le but de l'aliénation reste dans le capital. Avec l'homme, s'aliène une fois de plus dans le produit de son propre produit, c'est-à-dire dans le capital. Mais dans l'exemple que je viens de citer, la marchandise, c'est le concret, c'est le sensible. De la marchandise, je voudrais expliquer la démarche marxienne dans l'exemple que je viens de citer. De la marchandise, donc du concret, du sensible, il va vers la valeur d'usage, qualité, abstrait. Ensuite, valeur d'échange et le prix, concret, quantité, pour revenir la rationalité vers la marchandise en tant que fétiche. Donc, la démarche consiste d'aller de concret à l'abstrait rationnel, de l'abstrait au concret rationnel, et le tout dans un mouvement contradictoire. Dans cet exemple, comme dans les exemples cités lors de la première exposée, Marx étudie le phénomène, la chose dans son mouvement, par rapport, non pas à elle-même, mais par rapport aux hommes. Et leur rapport est en plein milieu des rapports sociaux. Deuxièmement, il étudie la chose du point de vue du passé, de son présent et de son avenir, où le savant fait partie, où le chercheur fait partie de sa recherche. Ainsi, la dialectique se définit comme étant étude des phénomènes dans leur devenir social, c'est-à-dire dans la société, dans l'histoire, par rapport aux hommes et non pas par rapport à la chose elle-même ou par rapport aux choses et les relations imaginaires qu'on voudrait établir entre les choses. Cependant, nulle part, Marx n'a codifié la dialectique en quelques lois. Marx n'a pas donné non plus, à ma connaissance, des exemples de l'application de la dialectique à la nature. Les expressions, vous le savez, les expressions matérialisme dialectique, matérialisme historique, sont apparues d'abord et pour la première fois sous la plume d'Engels. C'est Engels qui a généralisé la dialectique à la nature sous forme des trois ou quatre lois que je rappelle de nouveau, qui étaient le changement et processus, interpénétration des contraires, la transformation des changements quantitatifs gradués à des transformations ou à des changements qualitatifs soudains. La généralisation, donc, de la dialectique à la nature date d'Engels. Dans un premier essai, le premier essai de la généralisation apparaît dans l'Anti-Düring de 1800, qui a été écrit entre les années 1877 et 1878. Dans la préface de Anti-Düring, dans la préface de l'édition de 1885 de Anti-Düring, Engels lui-même avoue en disant: au point de départ, j'étais très prudent quant à cette application, quant à l'application de la dialectique à la nature, et je pense bien le rester prudent. Et il dit ceci, je cite, « Reconnaître que ces oppositions, c'est-à-dire les oppositions dialectiques, et ces différences existent, certes, dans la nature, mais seulement avec une validité relative. » Et il souligne la validité relative. Tel est l'essentiel de la conception dialectique de la nature. Fin de citation. Ensuite, Engels se livre à citer un certain nombre d'exemples quant à l'application de cette généralisation de la dialectique au domaine des phénomènes de la nature et de la science. En ce qui concerne l'algèbre, par exemple, il prend la première formule, la plus simple de l'algèbre. Prenez, dit-il, une grandeur algébrique A. Niez-la par le moyen de la multiplication. Vous aurez moins A. Niez le moins A, encore une fois, par au moyen de la multiplication, moins A multiplié à moins A, vous aurez A puissance 2. Eh bien, dit Engels, le A du point de départ, donc le A positif, c'est la thèse. Le A nié, pour la seconde fois, la négation de la négation, c'est l'antithèse. Et le A puissance 2, c'est la synthèse, le résultat de la négation de la négation. C'est le A, A puissance 2 en réalité. Ce n'est ni A positif, ni A négatif, c'est A élevé à un niveau supérieur puisqu'elle est synthèse. Ensuite, il donne un autre exemple, l'exemple très connu du grain d'orge. Prenez un grain d'orge, mettez-la dans des conditions favorables de la chaleur et d'humidité. À ce moment-là, le grain est nié, il y a la plante qui pousse. Le grain est la thèse, c'est l'affirmation, l'antithèse, c'est la plante, et la synthèse, c'est des centaines de graines qui, après, une fois que la plante a fleuri, vont arriver ou vont tomber par terre. Eh bien, ces centaines de grains d'orge n'est pas le grain d'orge du point de départ, c'est une autre chose, c'est la synthèse dialectique, la synthèse, donc, le fruit de la négation de la négation. Et puis, il conclut, toujours dans Anti-Düring, le mouvement est lui-même contradiction, car à un seul et même moment, un corps est à la fois dans un lieu et dans un autre. Fin de citation. La vie elle-même, dit Engels, en ce qui concerne le domaine de la biologie, est une contradiction. Tout le monde naît, grandit, arrive au stade de la maturité, en grandissant, en s'épanouissant, en même temps il vieillit, il va donc vers la mort, ce qui suppose que la mort est une synthèse. En ce qui concerne le domaine de l'économie, au départ, tout au début de l'histoire, il y avait la propriété en commun du sol. Ensuite, cette propriété en commun du sol était devenue une entrave quant à l'utilisation des moyens de production agricole. Eh bien, la propriété en commun du sol est niée. Elle est substituée par la propriété individuelle. La propriété individuelle, de nouveau, étant une entrave en ce qui concerne l'utilisation pleine et entière des moyens de production modernes, elle est niée et fait place à l'agriculture, à la propriété commune, collective. C'est du socialisme. Engels reprend tous ces exemples, de nouveau, dans la dialectique de la nature. La dialectique de la nature, c'est un livre qui a été publié après la mort d'Engels, d'après les notes qu'il avait préparées entre les années 1876 et 1895, l'année de sa mort. Il avait élaboré un certain nombre de notes en vue de publier quelque chose sur la méthode marxiste ou sur la dialectique. Mais il est mort sans pouvoir réaliser son désir, comme Marx d'ailleurs. Et ces notes ont été retrouvées, ont été traduites, ont été publiées par l'Institut marxiste-léniniste de Moscou sous Staline, c'est-à-dire en 1925 pour la première fois. Dans la dialectique de la nature, Engels répète l'ensemble de ces exemples que je viens de citer avec d'innombrables d'autres exemples, et généralise la dialectique au domaine de la nature, au domaine de toutes les branches scientifiques, de l'astronomie à la physique, de la physique à la chimie, à la biologie, à la sociologie, à l'algèbre, à l'arithmétique, calcul différentiel, etc. Et arrive à formuler un certain nombre de conclusions. Lesquelles conclusions étaient certes valables, restent valables en ce qui concerne la dialectique de l'histoire. La première, rien n'est absolu et éternel sauf le changement. Évidemment, par la suite, Lénine dans Matérialisme et Empiriocriticisme, Mao Tse-tung dans De la contradiction, disent effectivement il n'y a pas une vérité absolue. Mais si il y a une vérité absolue, toute petite vérité absolue, qui est la somme des vérités relatives. D'autres conclusions que tire Engels, c'est chaque chose contient à la fois elle-même et son contraire. La troisième conclusion, dans toute chose, il y a des forces contradictoires. Les unes poussent vers l'affirmation, les autres vers la négation. Donc, il y a la contradiction dans chaque chose. Enfin, la contradiction, il y a dans les faits, dans les choses. Elle n'est pas mécanique, elle n'est pas logique, elle puise son origine dans l'autodynamisme interne des faits, des phénomènes et des choses. La négation est une destruction. Prenez on peut concevoir un. Plus fort. Ah oui, d'accord. On peut envisager très facilement un coquille d'œuf, un œuf. Qui, dans les conditions idéales, donne naissance à un poussin. Le poussin en question, qui casse le coquille et en sort, c'est la négation de l'œuf. Évidemment, dans ce processus, dans le devenir de l'œuf et du poussin, il peut arriver des choses assez méchantes. Il peut arriver que l'œuf, avant qu'il soit soumis à ce processus dialectique, quelqu'un le mange, ou bien qu'elle se casse. À ce moment-là, le processus dialectique ne va pas jusqu'au bout. On n'autorise pas, on ne donne pas l'occasion à l'autodynamisme de la matière en question, ici l'œuf, d'aller jusqu'au bout de son autodynamisme. Quoi qu'il en soit, ce sont les contraires et leur dynamisme interne qui déterminent l'évolution de chaque chose. Et le changement, la transformation qualitative et la solution du conflit, des contraires, de la contradiction qui existe dans chaque chose. Parmi ces exemples, si on faisait abstraction de ce qui illustre les rapports des choses avec les hommes, avec la société, il reste des conclusions, il reste des exemples où Engels arrive à admettre la contradiction dans la chose elle-même. Rien ne dit jusqu'ici, scientifiquement, que les choses portent en elles-mêmes une contradiction. Affirmer une telle affirmation, c'est un a priori de nos jours, car scientifiquement, on ne peut pas montrer, on n'a pas la preuve de montrer que le cendrier, là, est en contradiction avec cette verre d'eau. On n'a pas la preuve pour prouver cela. Lorsque dans le domaine de la chimie, Engels cite qu'il voit dans le processus de la désagrégation de l'eau, de H2O en H et O2, il voit aussi un processus dialectique, c'est-à-dire opposition, contradiction, négation de la négation et finalement la désintégration à H2O. La même chose pour S4H2, acide sulfurique. La même chose pour radical d'eau, en ce qui concerne l'algèbre. Eh bien, rien ne prouve si même en existence, en rapport avec l'homme, rien ne prouve qu'il y a réellement une contradiction dialectique dans cette formule de la désintégration. Il y a quelques années, j'étudiais Engels assez sérieusement pendant presque 2 ans, et évidemment, n'ayant pas une formation scientifique, j'ai voulu en savoir davantage. Je me suis adressé à des scientifiques, à des types qui faisaient des recherches poussées sur l'électronique, sur la chimie, sur la physique. Certains avaient même reçu des prix, etc. Peu importe. Je connaissais un petit peu la dialectique, mais pas la science. Oh, ils savaient la science, mais ils ne se connaissaient pas comme il faut la dialectique. Alors je suis allé avec cette formule de S4H2, de H2O, et le calcul différentiel, les exemples d'Engels, pendant des jours, des heures, rendez-vous, discussions, etc. Ils m'ont dit, écoute mon vieux, ça va pas, parce que d'abord, aujourd'hui, comme lui, l'explique Engels dans la dialectique de la nature, ses notes en tout cas publiées par à l'époque stalinienne en Union soviétique, comme il l'explique comme ça, bon, cela était, on produisait de cette façon-là S4H2 il y a 150 ans. Maintenant, on produit absolument de façon différente. Ça ne se passe pas. Est-ce que tu es prêt à venir étudier ça et comprendre? Moi, franchement, les gens avec qui j'ai discuté, ils me disaient, mais moi, franchement, je ne vois aucune contradiction, mais vous mettez la contradiction dedans, dans cette affaire-là, en disant S4H est contre O et S4H2, la même chose, la moitié de formule est contre l'autre moitié. Moi, je ne vois ni opposition, ni la guerre dans cette affaire. C'est ce que dit aussi Jean-Paul Sartre dans la critique de la raison dialectique. Il dit effectivement que la dialectique a été abstraite, extraite du rapport des hommes avec les hommes dans la société et dans l'histoire. C'est par souci d'unifier qu'ensuite qu'on l'a imposé à la nature. Et en tout cas, on peut très bien s'en passer pour le moment de cette histoire de l'existence de la contradiction dialectique en ce qui concerne la nature, et cela sans préjudice
à l'ensemble des thèses marxistes. Quoi qu'il en soit, je reviendrai tout à l'heure sur cette histoire, quoi qu'il en soit, après Engels, Lénine complétera la généralisation commencée par lui. En 1915, dans un article intitulé « Résumé des leçons d'histoire de la philosophie » de Hegel, Lénine écrivait, je cite, « Au sens propre, la dialectique est l'étude de la contradiction dans l'essence même des choses. » L'essence même des choses, c'est effectivement aller trop loin. Aller trop loin dans la mesure où la science ne nous la montre pas. Pourquoi ? Dans l'essence même des choses, est-ce que les choses au même, ils sont en contradiction ? Est-ce que les choses au même veulent se faire la guerre, sont opposées les unes aux autres ? Ou bien, dans un processus à long terme de la nature, et en tout cas, est-ce cette contradiction ? Est-ce par rapport à l'homme, aux hommes, à la société, ou non, en faisant abstraction des hommes. Pour le moment, poursuivons ce que dit Lénine lui-même. Dans un autre article, celui-là de 1915 également, intitulé « À propos de la dialectique », Lénine dit, je cite, « que la contradiction dans l'essence des choses, c'est une loi, c'est le fond de la dialectique même. » On s'éloigne de plus en plus de la prudence, des premières prudences d'Engels. Dans ce même article, Lénine, il désira d'illustrer l'universalité de la contradiction par un certain nombre d'exemples dit, je cite, « En mathématiques, le plus et le moins, différentiel et intégral. En mécanique, action et réaction. En physique, électricité positive et négative. En chimie, union et dissolution des atomes. Dans la science sociale, lutte de classe. Dans empiriocriticisme, il va bien plus loin et dit ce que j'ai fait mienne, du moins apparemment l'autre soir, en disant qu'il n'y a que deux sciences, la science prolétarienne et la science bourgeoise. Donc, chaque prise de position, l'humanité n'a créé que deux idéologies, donc deux sciences. Par conséquent, chaque prise de position est une prise de position idéologique, est une prise de position scientifique, quelle qu'elle soit, profite à l'une ou à l'autre des deux parties en présence. C'est dire, à ce moment-là, on peut très bien se demander, par exemple, la découverte de la pénicilline. Est-ce que ça a profité seulement à la bourgeoisie ? Est-ce que vraiment, elle n'a pas profiter à la classe ouvrière et à d'autres. En tout cas, après Lénine, Staline réduira purement et simplement l'ensemble de la dialectique aux trois lois d'Engels, qu'il officialisera progressivement à travers notamment les problèmes, les questions du léninisme, 1924, anarchisme et socialisme, 1946, et toutes ces œuvres. Dans le petit pamphlet de 1946, dirigé contre les anarchistes, Staline, en se référant à Engels, à Lénine, à Lamarck, à Darwin, et notamment Mendeleïev, mais sans aucune argumentation sérieuse, conclut, je cite, « Les mêmes processus saut des trois lois de la dialectique s'opère dans la vie de la nature, que la contradiction existe dans chaque chose, dans chaque objet. À la lecture de cette brochure, on est obligé d'observer si la dialectique, depuis Marx, a régressé ou si elle a progressé. Si elle n'est pas devenue, avec notamment Staline, si elle n'est pas devenue une dialectique mécaniste. Vous vous rappelez l'autre séance, l'autre soir, nous avons parlé de la façon dont procédait Feuerbach, un matérialiste mécaniste de la gauche hegélienne, que Marx avait critiqué précisément son matérialisme, faute de dialectique d'une part et mécaniste d'autre part. Cette observation, ou je dirais cette critique, se fonde sur ce genre d'affirmation de Staline. Je cite, « D'abord, change les conditions extérieures, le côté matériel, et ensuite, change conséquemment la conscience, le côté idéal. » Vous avez donc, selon M. Staline, d'une part les conditions matérielles, de l'autre, les conditions non matérielles, spirituelles, si vous voulez. Pour que les secondes changent, il faut d'abord la transformation, le changement des premières. Oui, retour à Feuerbach, retour au matérialisme mécaniste. Car si Staline donne une telle interprétation de la dialectique, c'est que cela arrange sa politique répressive. De même que procédait la philosophie idéaliste, la philosophie classique, celle de l'être, en posant l'homme, la nature d'abord, et l'homme, dans cette nature, appelé à en faire la connaissance, donc une prise de position ontologique, de même, la construction, le prolongement de la dialectique avec Staline, tel que je viens de citer, c'est de nouveau une ontologie, grâce à la théorie du reflet, car il y a la nature, certes, mais cette nature, elle est dialectique. Si cette nature, elle est dialectique, le reflet de cet aspect de la dialectique de la nature se trouve dans la conscience des hommes, lesquels sont composés de deux classes, ascendante et descendante. Or, la classe ascendante, c'est-à-dire la classe ouvrière, le prolétariat, elle est mieux située pour saisir ce reflet, pour refléter mieux la contradiction qui existe toujours. Et on voit comment cela mène loin, comme ce fut le cas chez Staline. Pourquoi ? Parce que le reflet de la contradiction dialectique de la nature est enregistré dans la société, dans la conscience, dans l'esprit de la classe montante qui est le prolétariat. Or, le prolétariat étant une grande entité, ses représentants, c'est-à-dire les dirigeants du parti, dont fait partie M. Staline, qui enregistre mieux, dont la pensée reflète mieux la dialectique de la nature. Nous sommes de nouveau en présence d'une ontologie, d'une nouvelle divinité.